Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Théâtre de Belleville. Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un moment avec les artistes qui jouent en ce moment même à Belleville. Ensemble, nous allons entendre des extraits de leur spectacle, des conversations et réflexions autour de certaines thématiques liées à leur travail, ou bien la lecture de textes qui les inspirent et qu'ils souhaitent nous partager. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Rémi Prin, metteur en scène de deux pièces programmées au Théâtre de Belleville. Solaris, adapté du roman de Stanislas Lem, traduit par Jean-Michel Jasenko, et Salem, réalisé en écriture collective avec Flora Baumchastel, Élise Dautefeuille, Naïma Morel, Rose Rollin, Louise Robert et Léa Schwartz. Bonjour Rémi.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta compagnie ?
Je m'appelle Rémi Prin, je dirige la compagnie Le Tambour des Limbes depuis 2012. C'est une compagnie qui travaille beaucoup sur la notion de théâtre de genre. J'appelle théâtre de genre, c'est qu'on a un lien très fort avec le cinéma et du coup on essaye d'explorer des genres qu'on a plutôt l'habitude de voir sur un écran de cinéma et pas tant au théâtre. De la science-fiction, du fantastique, même de l'horreur, de l'épouvante. Enfin voilà, c'est vraiment notre cheval de bataille à la compagnie Le Tambour des Limbes. Voilà, et à côté aussi je suis créateur lumière, puis depuis peu je dirige un lieu à Saint-Denis qui s'appelle les 3T, le théâtre du troisième type, voilà, qui va ouvrir sous peu, courant mai.
Et donc, où est-ce que tu fais de faire des pièces de genre ? Donc, ici, avec Salem et Solaris, science-fiction, fantastique, épouvante, c'est pas du tout courant. Et toi, pourquoi tu as eu cette envie-là ?
Bah, parce qu'à la base, je viens vraiment du cinéma. Moi, je suis monté à Paris pour faire des études de cinéma et pour devenir cinéaste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis monté à Paris, donc c'était en 2003, c'était un peu l'avènement du numérique et des effets spéciaux sur écran vert. Et moi, j'étais plutôt un enfant du cinéma, un peu de la débrouille, des maquettes, des trucages à l'ancienne, de la pellicule et tout ça. Et du coup, quand j'ai commencé mes études de cinéma, je me suis rendu compte qu'au niveau vraiment de la technique, j'étais plus tellement en accord. En tout cas, ça m'emballait moins d'un coup de travailler dans le cinéma. Enfin, je trouvais que d'un coup, les contraintes qui, moi, me nourrissent artistiquement, elles étaient plus là. En tout cas, elles étaient ailleurs et dans des domaines qui m'intéressaient moins. Donc ça, ça a été le premier déclencheur. Et ensuite, après, quand j'ai voulu faire de la mise en scène, j'ai fait une école de théâtre, non pas pour être comédien, mais pour apprendre justement ce que c'était que d'être comédien pour diriger des comédiens. Et c'est là que je me suis rendu compte que le théâtre était un espace de contrainte où justement porter à la scène de la science-fiction, etc., sur un plateau de théâtre, t'amener dans des contraintes qui, au final, étaient proches des contraintes du cinéma à l'ancienne que moi, j'aime. Donc ça a été le premier déclencheur. Et le deuxième déclencheur, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois depuis que je suis à Paris d'aller voir des spectacles qui se revendiquent de faire du théâtre fantastique, d'horreur, enfin voilà, du théâtre de genre. Je vais pas citer de nom, mais... Et en fait, je suis toujours très déçu parce que je me rends compte qu'à chaque fois, on te vend ça, mais qu'au final, souvent, c'est plutôt du pastiche, voire de la parodie. Alors que souvent, c'est des spectacles qui ont des grosses productions et qui pourraient vraiment, je pense, relever le défi de faire peur, angoisser, ou en tout cas, vraiment faire très sérieusement des choses. Mais je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une sorte de timidité par rapport à ça. Et du coup, c'est là où je me suis dit que moi, j'allais vraiment essayer de faire ça le plus sérieusement du monde, quoi. Moi, je pense que c'est aussi un... Si tu regardes aujourd'hui le cinéma de genre français, par exemple, qui est même le cinéma de genre en général, qui a longtemps été regardé de haut par toute une partie de la critique, que ça soit cinéma ou théâtre. Là, en ce moment, le cinéma de genre, il est en train d'exploser, même en France. Il y a même des films... Là, j'ai vu que Vermine avait été nominé au César. Enfin, voilà, petit à petit, c'est en train de bouger. Et il y a des cinéastes... moi, je suis très fan de John Carpenter, par exemple, qui a vraiment une influence. John Carpenter, à l'époque où ses films sortaient, il se faisait... démolir par la critique, alors qu'aujourd'hui on écrit des bouquins sur lui, enfin on se rend compte que c'est un immense cinéaste, que ses films sont beaucoup plus politiques qu'on croit, et donc je me dis que voilà, c'est aussi quelque chose qui va peut-être bouger aussi au fur et à mesure. En tout cas, c'est en train de bouger au cinéma, et moi j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice au niveau du théâtre, quoi.
Mm-hmm.
Solaris, c'est une histoire un peu particulière. Bah là, même si maintenant c'est devenu un projet ultra personnel, à la base c'était pas du tout mon projet. En fait, c'était le scénographe de Solaris qui en fait voulait le monter au théâtre et moi je devais l'accompagner avec ma compagnie. Et puis en fait, très vite, il s'est rendu compte qu'il n'était pas très à l'aise avec le fait de diriger des comédiens, etc. Et du coup, il m'a très vite dit qu'il, finalement, ce qui l'intéressait, c'était de faire la scéno. Moi, entre-temps, j'avais lu le bouquin, parce que c'est l'adaptation d'un roman de science-fiction très connu, de Stanislas Lem, qui a été écrit en 61, qui a été adapté quand même deux fois au cinéma, dont une adaptation quand même très mythique, qui est celle de Tarkovsky. Et en fait, moi, j'avais, à la base... Le film de Tarkovsky, même si j'adore Tarkovsky, m'a jamais énormément emballé. Mais du coup, quand il m'a parlé de ce projet, j'ai lu le bouquin et je suis vraiment tombé très amoureux du bouquin, mais très amoureux de l'histoire, en fait. Parce que comme beaucoup de romans de science-fiction, il y a un aspect très scientifique, très philosophique. Et en fait, tout le défi a été d'en faire une adaptation, on va dire, beaucoup plus accessible. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'histoire, quoi, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que quelque part, c'est une histoire d'amour tragique dans l'espace, quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment des ressorts de tragédie, en fait. C'est juste que c'est sur un huis clos qui se passe sur une station spatiale, mais au final, les recettes, les enjeux des personnages sont vraiment des enjeux de tragédie, quoi. Et ça m'a vachement plu. D'ailleurs, je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de mixer comme ça... des ressorts de tragédie très propres au théâtre, avec vraiment toute ma passion cinématographique pour le genre de la SF. Donc voilà, ça a vraiment été ça le déclencheur qui a fait qu'après je me suis vraiment lancé dans la reprise du spectacle et j'ai réécrit le texte. Il y a eu beaucoup de réécriture parce qu'une adaptation ça prend toujours beaucoup de temps. Et maintenant c'est vrai que c'est un projet très très personnel, quoi. Et sur l'aspect politique du spectacle, sur celui-là, je dirais que c'est aussi surtout le rapport à la science, parce que Solaris, qu'est-ce que ça raconte dans le fond ? C'est des scientifiques qui sont vraiment l'élite de la science, qui un jour se retrouvent face à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qui provoque des choses qui les dépassent complètement. Je vais pas trop teaser, je vais pas trop en révéler, mais en tout cas qui fait qu'ils sont dans un contexte psychologique très effrayant et très vertigineux. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des scientifiques qui sont très cartésiens, qui sont très sûrs d'eux et qui d'un coup se retrouvent face à l'inconnu et ça les fait complètement devenir fous, en fait. Et ça m'intéressait aussi à quel point, quand tu repousses les limites de la connaissance, quand tu vas de plus en plus loin dans les explorations de choses qu'on ne connaît pas, ben, peut-être qu'à un moment donné, on peut se retrouver face à quelque chose qu'on n'arrive plus du tout à analyser, plus du tout à comprendre. Ça, c'était cet aspect-là aussi qui me plaisait beaucoup.
Et après, quand tu as commencé à travailler sur la mise en scène, sur le décor, parce qu'il y a un très gros travail quand même pour recréer un vaisseau spatial et pour que les spectateurs se ressentent aussi enfermés dans ce vaisseau.
Bah ça, en fait, mon scénographe à la base avait vraiment conçu une scénographie, mais vraiment de CDN, quoi, un truc énorme et tout. Et puis voilà, après on a revu un peu nos ambitions à la baisse. Et assez vite, on s'est dit qu'il allait construire avec Suzanne Barbeau qui l'a accompagné. Ils ont été deux scénographes à créer la scénographie de Solaris. En tout cas, tous les deux, avec les deux scénographes, on s'est assez vite rendu compte que ce qui pouvait être intéressant, c'est d'avoir plusieurs éléments de décor qui, selon comment on les dispose au plateau, créent tous les espaces dont on a besoin pour situer les différents espaces de la station. Et en fait, assez vite, on s'est appuyé sur des ressorts de... Bah, voilà, il y a un pan de mur, mais un pan de mur, selon si tu le mets incliné comme ça, si tu l'éclaires comme ça, d'un coup, ça dessine un autre espace, d'un coup, ça devient une cabine de vaisseau ou un laboratoire ou le couloir d'une station. Enfin, voilà. Et après, on a créé aussi des modules arrondis sur lesquels, pareil, ça crée vraiment une géographie de l'espace. Et en fait, ce qu'on s'est amusé assez vite à faire, c'est qu'une fois qu'on a eu les éléments de décor, on les a posés au plateau, ils étaient tous sur roulette, et on a commencé à s'amuser pendant deux jours à essayer de voir comment ils arrivaient à créer des espaces. Et après, il y a eu tout un travail où du coup, on a commencé à se dire, ça c'est l'espace de telle pièce, ça c'est l'espace de telle pièce. Et tout un travail de machinerie, les comédiens, en fait, quand ils ne sont pas au plateau, ils font bouger le décor de façon à ce qu'on ait presque l'impression que c'est une station un peu vivante, qui se déplace, voilà. Donc il y a vraiment un côté aussi, notamment pour le personnage principal qui arrive sur cette station, ça rajoute un côté fantastique parce que au-delà du fait qu'il y a des événements très étranges qui se passent sur la station, en fait, dans son esprit, on a presque l'impression que la station est vivante, qu'elle bouge, qu'elle vit et que les espaces se déploient. Et c'est là aussi où on a dû faire une création de lumière très précise, parce que toute la base de la création de lumière, c'est d'attirer le regard à un endroit, de laisser l'autre partie dans la pénombre, et pendant que tous les gens assistent à une scène à jardin, à cour, hop, il y a une modulation de décor, et hop, après la lumière se rallume, on se rend compte qu'on a changé d'espace. Mmh. Et tout ça de manière très fluide, quasiment sans aucun noir total. Donc voilà, ça a été vraiment tout le travail de scénographie et de lumière sur ce spectacle. Quoi.
Et de costumes aussi.
Oui, on a eu deux costumières qui ont travaillé sur les costumes. Il n'y en a pas tant, mais en effet, on a voulu rester aussi dans le flou. Ce qu'on voulait aussi, on trouvait que c'était intéressant de partir plutôt sur une station, une vieille station. Enfin, on n'avait pas envie d'un truc aseptisé, tout blanc et tout ça, au contraire. Donc là, c'est une station, on sent qu'elle a vécu, on sent qu'il y a de la poussière, on sent que même les costumes sont un peu vieillots, et du coup je trouve que ce qui est bien, c'est que comme l'époque n'est pas définie, on peut vraiment l'inscrire un peu partout, on peut l'inscrire même dans toutes les nationalités possibles, et ça c'était quelque chose que j'aimais bien. J'aime bien souvent dans les spectacles, pour Salem c'est exactement la même chose, j'aime bien vraiment laisser un flou sur les époques et sur les endroits spécifiquement géographiques. C'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime bien me dire que toutes ces histoires, comme j'estime que je fais du théâtre populaire, et que du coup c'est des histoires très populaires, pour moi elles peuvent se passer partout en fait. Donc voilà, il y a toutes les époques quoi. Donc j'ai beaucoup de mal à acter frontalement une époque dans une mise en scène que je raconte. Donc voilà, je jouais sur les anachronismes, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de Salem ? Comment se passait le processus d'écriture, ouais, avec l'écriture collective ?
Ouais. Salem, c'était après Solaris. Je voulais vraiment faire un spectacle qui allait tirer plus vers le fantastique et l'angoisse. Mmh. Et je suis très branché faits divers. Hein. C'est vraiment une passion, quoi, les faits divers. Ça fait très longtemps que je suis vraiment fasciné par les faits divers, un peu de psychose collective et de choses comme ça. Et
alors, qu'est-ce que c'est, la psychose collective ?
La psychose collective, c'est quand tout un groupe de personnes, pour des raisons des fois minimes, se lancent dans une sorte de réaction en chaîne qui font qu'au final, ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font et que ça prend des proportions dingues. Et ça peut aller au meurtre, à la torture, à des choses qui sont complètement inhumaines. Et souvent, le déclencheur, c'est une micro-étincelle, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est quand vraiment on n'arrive plus à arrêter une machine, comme si la nature humaine montrait son visage le plus laid, avec vraiment une petite pichenette qui vient déployer quelque chose d'horrible. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me fait à la fois très peur, mais qui me fascine. Mmh. Et le fait divers de Salem me fascinait vraiment pour ça. Et en fait, à la base, la première idée, c'était de mettre en scène la pièce d'Arthur Miller, que j'avais pas lu depuis longtemps. Et quand je l'ai relu, j'ai quand même été assez déçu, parce que je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup des sorcières de Salem, mais quand on lit la pièce d'Arthur Miller, au final, on se rend compte que les sorcières sont assez peu présentes, que c'est beaucoup les villageois accusés qui sont les personnages principaux, notamment John Proctor, que la seule qui ressort un peu, c'est Abigail Williams, qui en plus de ça, je trouve, est quand même vraiment dans le cliché de la sorcière très sexualisée, etc. Et c'est vrai que quand on a commencé à écrire le spectacle, en plus on était en pleine période MeToo, et c'est vrai que très vite on a voulu vraiment prendre le contre-pied de tout ça. Et assez vite, je me suis dit, puisque Miller a fait ça, donner plus le point de vue des villageois, il faudrait faire l'extrême inverse. Et très vite, je me suis dit, comme j'adore les huis clos, je suis très fan des huis clos, et j'aime bien aussi ce qu'on appelle les survivors, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont enfermés quelque part et ils doivent survivre, quoi, parce que sinon, ils vont mourir. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas super, en fait, de ce qu'on ne prend que le point de vue des femmes qui vont être accusées de sorcellerie. Et on les suit quasiment en temps réel pendant une heure et demie, entre le moment où elles se font surprendre par les villageois, donc le déclencheur de toute cette psychose collective. Et toute la réaction en chaîne, presque en temps réel. Et du coup, assez vite, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que du coup, le spectacle se décline en succession de huis clos où elles vont d'espace en espace de plus en plus réduit parce que les taux se resserrent. Et du coup, je me suis dit, et là aussi, c'est tout mon goût pour le cinéma qui s'est mis en place, c'est que je me suis dit, en fait, ce qui serait super, encore plus super, c'est que les villageois, on les voit jamais. En fait, c'est du son, c'est des lumières. C'est-à-dire, c'est une menace extérieure très anxiogène, mais qu'on ne voit jamais. Et en fait, on est vraiment concentré H24 avec les quatre personnages féminins, quoi. Et je trouvais que ça, c'était le meilleur axe, en fait, pour essayer de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Parce que moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ce fait divers, c'est qu'on a souvent parlé des sorcières de Salem comme des femmes qui avaient affabulé, qui s'étaient mis à dénoncer au hasard des villageois, etc. Ok, ça c'est vrai, mais en fait, pourquoi elles ont fait ça? Et en fait, le pourquoi elles ont fait ça, c'est que, et c'est ça, moi, que j'avais envie de traiter, c'est qu'on leur a pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'en fait, elles se sont fait surprendre dans la forêt en train de faire un truc qui n'était pas non plus monstrueusement grave, hein, sorte de cérémonie, j'imagine, un peu ratée en plus de sorcellerie. Enfin, je veux dire, c'est comme si on faisait comment on appelle ça, on invoquait les esprits en soirée, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ils sont dans une société tellement corsetée que quand elles se font surprendre, une des deux a tellement peur des retombées, parce que son père est pasteur, etc. Donc, elle a une crise de tétanie. Et du coup, en fait, elles sont obligées de s'enfermer. Et comme les villageois affluent pour essayer de les condamner, en fait, elles sont obligées de trouver un biais pour relancer la faute sur d'autres, en fait. Et moi, ce que j'avais envie de montrer, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, on ne leur a pas laissé le choix et que la seule solution qu'elles avaient de répondre à leurs bourreaux, c'était elles-mêmes, d'une certaine manière, devenir des bourreaux. Et ce qui m'intéressait, c'est que elles sont quatre, et tu t'imagines bien que dans le cadre d'un huis clos, c'est aussi tout le principe des huis clos, c'est qu'évidemment leurs positions vont changer. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va être très dans, on se venge tout de suite au début du spectacle, et puis au fur et à mesure, elle va varier. Il y en a d'autres qui vont être plutôt sur la retenue, qui au bout d'un moment vont complètement. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était de voir comment elles n'ont pas le choix. Et en même temps, elles sont quatre, elles se connaissent pas si bien et elles vont devoir faire front ensemble, quoi. Donc il y avait vraiment un truc de sororité. Du coup, quand j'ai posé ça, très vite, j'ai dit à mes quatre comédiennes que j'avais choisies, je leur ai dit, moi par contre, je me sens pas d'écrire ça seul. Enfin, on est vraiment dans un point de vue de quatre femmes. Je sais dramaturgiquement, à mon avis, les événements qu'il faut qu'ils se passent au fur et à mesure des actes, mais je trouve que dans le dialogue, dans tout ça, j'ai besoin qu'on écrive ensemble. Et du coup, assez vite, on s'est mis à poser une trame et après, on a vraiment écrit ensemble et on faisait ça. C'était assez marrant. Chacune a vraiment écrit un acte avec moi. Et en fait, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un peu des relais de dialogue. C'est-à-dire qu'on se mettait sur un drive, je lançais un dialogue, elle me répondait comme si elle était un autre personnage, je lui répondais. Et on voyait où ça allait, en fait. Et en fait, on a fonctionné comme ça. Mais l'écriture a pris 2 ans, hein, parce que forcément, il y a eu 15 versions, parce qu'après on a eu une première version, on est parti en résidence, on a fait un peu plateau, ça a changé. Enfin voilà, donc il y a eu, il y a eu 15 ou 16 versions du texte avant qu'on arrive vraiment sur une forme aboutie, quoi.
Et du coup, est-ce que chacune a vraiment écrit, s'est concentrée sur le dialogue de son personnage, ou est-ce que se sont partagés les dialogues de tous les personnages?
Non, en fait, ce qui m'intéressait, c'est dans chaque acte, il y a un personnage qui est forcément un peu plus observateur de la scène, en tout cas que les trois autres. Et du coup, elles ont surtout pris en charge les actes où elles sont plus en observation. Et du coup, elles écrivaient tout.
Et chaque acte sont ponctués d'un monologue,
oui,
d'une des femmes.
Ça aussi, c'est quelque chose que... Parce qu'en fait, nous, dans la manière dont on a adapté ce fait divers, c'est qu'on a volontairement... parce que ça m'intéressait moins, je crois. On a volontairement enlevé toute la partie tribunal, parce que le principe de Salem, c'est qu'il y a eu vraiment des tribunaux où elles étaient là et elles disaient, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, et voilà. Moi, ça m'intéressait moins parce que j'aimais vraiment le côté réaction en chaîne, c'est-à-dire que ça démarre tel jour et en quelques jours, il se passe tout ça, quoi, tout ce chaos monumental. Mais du coup, j'avais vraiment envie de parler un peu du tribunal qu'on peut des fois avoir dans sa tête soi-même. Du coup, j'ai eu une idée, c'est que je me suis dit, ce qui serait génial, c'est qu'au fur et à mesure des actes, entre chaque acte, y ait un monologue qui ne soit pas vraiment un monologue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elles répondaient à un tribunal qu'elles s'auto-infligeaient dans leur tête sur ce qu'elles étaient en train de faire. Pour en avoir parlé avec mes comédiennes, c'est quelque chose qui leur parlait beaucoup, en fait. Ce côté de s'auto-infliger des remarques, des injonctions, des choses comme ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Et du coup, c'est là qu'on a décidé qu'il y avait un tribunal. Mais pareil, un tribunal, en fait, on ne sait pas les questions qu'il pose parce que c'est des bruits horribles. Mais elles répondent, comme si elles comprenaient ce bruit horrible. Et d'ailleurs, les villageois, des fois, parlent une langue complètement inconnue. Mais elles leur répondent, comme si vraiment elles comprenaient. Donc ça immerge aussi le spectateur dans un univers vraiment, on est vraiment dans un univers mental où on n'est pas loin de la folie, quoi. Mmh. Et ça m'intéresse. Moi, j'aime bien un peu secouer les spectateurs et les plonger dans un truc un peu... les mettre en tension. J'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a eu beaucoup de dialogue avant vraiment qu'on se lance dans l'écriture, quoi. Et après, j'ai pas envie de révéler la fin du spectacle, mais déjà, il y a un truc qui était important pour moi, c'est qu'elles se connaissent pas si bien. Ça, j'aimais beaucoup ça. Elles se retrouvent dans la forêt pour faire ce truc, elles sont du même village, mais c'est pas non plus les super potes, quoi. Et en fait, elles se retrouvent embarquées dans cette histoire, et déjà, les quatre vont devoir faire front, alors qu'elles ont des caractères très différents. Ce que j'avais envie, et ça c'est un truc qu'on a assez défini, c'est qu'au final, chacune, d'une certaine manière, représente une violence infligée aux femmes. Et après, ce qui était intéressant pour moi, c'est que chacune, à la fin, fait un choix différent par rapport à la situation. Est-ce que toutes vont vouloir continuer à être bourreaux ? Peut-être pas. Et du coup, j'avais vraiment envie de montrer ça aussi. Et pareil, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elles changent tout le temps. Mmh. C'est ça aussi qui m'intéressait. Parce que voilà... Ce que j'ai dit aux filles, de toute façon, quand on a commencé à répéter le spectacle, et ça a été très dur pour elles, mais aussi très jouissif à un moment donné, c'est que c'est un spectacle où, de toute façon, tu n'as pas le temps de faire de psychologie. Elles doivent toujours jouer à l'instant T. C'est-à-dire qu'en final, les personnages n'ont jamais le temps de la réflexion. Ils sont tout le temps en réaction à. Donc c'est tonique, quoi. Il n'y a jamais la place à la psychologie, en fait. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que la pression se resserre sur elles et qu'elles doivent fuir, qu'elles doivent se défendre de quelque chose. Enfin voilà, c'est rare. J'ai l'impression quand même qu'on me demande de jouer ça au théâtre, des partitions vraiment de terreur, de trucs où vraiment... Enfin voilà, c'est le genre de truc que tu fais au cinéma plutôt. Là, c'est... j'adore, quoi. Et c'est là où, tu vois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je trouve ça... Je pense que, évidemment, quand tu fais du théâtre de genre, tu flirtes toujours un peu avec le cliché. C'est complètement normal, mais faut l'assumer. Et dès que tu l'assumes, dès que tu vas à fond dans le truc, ça marche, quoi. L'ouverture de Solaris, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui met un cosmonaute et qui part dans l'espace. Vraiment, mon comédien principal, évidemment, il a changé depuis. Hein, mais quand on a commencé à répéter il a changé d'avis, mais... Quand on a commencé à répéter le spectacle, il m'a dit tu veux vraiment sérieusement que je me mette en cosmonaute et qu'on fasse croire que je m'envole dans l'espace. Et il disait ça va être ridicule. Et en fait, oui, bien sûr, tu vois que c'est un costume. Mais en fait, c'est pas grave, quoi. Enfin, du moment que tu l'assumes à fond et que tu joues ça comme si t'étais dans un film de Christopher Nolan, y a pas de problème, en fait. Les gens, ils vont te suivre. Faut juste l'assumer à mort, quoi. Et pas se cacher derrière, on fait vaguement de la parodie, quoi. Et c'est ça que je reproche beaucoup aux gens des fois qui font soi-disant du théâtre de genre, c'est qu'ils le font pas vraiment sérieusement, quoi. Ils se disent que ça va pas marcher ou tout ça, alors qu'en fait c'est pas forcément vrai.
Merci beaucoup Rémi pour ce moment passé avec nous. On peut retrouver Solaris au Théâtre de Belleville du 7 au 30 avril tous les lundis à 19h, mardis à 21h15 et tous les dimanches à 20h. L'exploitation de Salem aura lieu du 5 au 28 mai, tous les lundis et mardis à 21h15 et tous les dimanches à 20h. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous, amis auditeuristes, de nous avoir écoutés. Nous espérons vous accueillir très bientôt au Théâtre de Belleville.